Vagabondage sans prétention dans nos existences. À l'entrée de Chamiers, tout près du rond-point menant au château des Isards, sur votre gauche, en allant vers Bordeaux, vous remarquerez peut-être une boutique qui se fait remarquer justement par sa discrétion. Et cette boutique s'intitule « Un événement, un gâteau ». Et quand on s'en approche, on pense qu'il s'agit d'une pâtisserie, mais on ne voit pas dans une vitrine des théories de baba, d'éclairs au chocolat, d'opéra et de millefeuilles. Non, simplement ce qui peut passer peut-être pour des modèles de gâteaux. Et c'est ici qu'officie Julie Brunel, qui est une pâtissière créative, une pâtissière événementielle, pourrait-on dire, puisque Sa vocation de pâtissier, elle la met au service des événements qui rythment la vie des familles. Julie Brunel, bonjour. Merci d'accepter de parler à Radio Libre en Périgord de votre métier. Qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter plutôt vers la production de gâteaux, qu'on va dire événementiels?
Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir aussi hein, dans votre émission. Moi, j'adore la pâtisserie depuis petite. C'était pas mon métier de base, mais j'ai toujours aimé et faire des gâteaux et en même temps faire de la création. Alors plus sur du scrapbooking ou des choses manuelles en fait, hein, dans l'art, la peinture, ce genre de choses. Et au final, j'ai trouvé quelque chose qui alliait les deux. Et la pâtisserie et le loisir créatif. Et du coup, je me suis lancée à partir de ce moment-là. J'ai fait une formation avec un pâtissier sur Angers qui était spécialisé cake designer. Et c'est de là que tout est parti.
Voilà, parce que votre carte porte effectivement ce terme de cake designer qu'on va peut-être traduire par pâtissière ou pâtisserie créative. Ce métier, vous l'avez quand même appris.
C'est-à-dire que du coup, c'est de la pâtisserie qui vient d'outre-mer, parce qu'elle est originaire de Grande-Bretagne et des Amériques aussi. Donc, au premier abord, c'est des choses qui ne plaisent pas forcément en termes de goût, parce qu'on n'a pas les mêmes palais qu'en outre-mer. Cependant, en France, on arrive aussi quand même à faire quelque chose de bon et de beau. Donc oui, ça m'a attiré quand même d'essayer de trouver la bonne recette pour plaire aux Français et enlever cette mauvaise image du beau mais pas bon.
Qui est celle, d'après vous, des pâtisseries que vous dites ultramarines, c'est-à-dire américaines, britanniques ou même allemandes, avec beaucoup de crème énorme, etc., débordante?
Oui, exactement. On ne peut pas vendre les mêmes produits en France qu'à l'étranger, hein, forcément. Donc du coup, il y a forcément de la crème dedans, ça reste un petit peu riche, mais j'arrive à travailler quand même en apportant un équilibre en fait, au niveau des saveurs et du sucre notamment.
Ce métier, vous l'avez appris pendant 2 ans, vous avez dit, je crois, non ?
Alors, je travaille depuis 2 ans dans ma boutique.
Vous avez une formation de pâtissière pendant combien de temps ?
Alors, assez peu au final, parce que j'ai appris... j'étais dans l'hôtellerie-restauration, donc un BTS hôtellerie-restauration de base. J'ai travaillé beaucoup en cuisine, on travaille forcément en pâtisserie un petit peu, mais après, je me suis spécialisée dans la pâtisserie en passant le CAP. Donc là, le protocole en fait classique en France. Donc j'ai fait un petit peu de pâtisserie dans des pâtisseries traditionnelles pendant un an. Et ensuite, je me suis formée au cake design. Alors ça a duré un mois, tout simplement à savoir en fait comment on monte un gâteau à étage déjà. Et comment on le recouvre de pâte à sucre. Il y a pas mal de technicité à ce niveau-là. Et ensuite, c'est la créativité qui parle.
Alors là, vous avez donné un petit aperçu déjà de la manière dont vous faites les gâteaux, en parlant de gâteaux à étage et de pâte à sucre. Tous vos gâteaux sont formés sur cette base, c'est-à-dire que ce sont tous des gâteaux étagés, tous enrobés de pâte à sucre, pour faire tenir l'ensemble.
Alors non, c'est pas obligatoire. Donc il y a une base en fait, qui est à base d'un... Alors ce qu'on pourrait dire en France comme une génoise, sans parler de termes techniques. Trois à quatre étages de génoise, et entre chaque étage, ça peut être une crème, ça peut être une compotée, ça peut être des fruits frais, des choses comme ça en fait, hein, comme par exemple la crème de la tarte au citron. On peut faire des choses assez légères, et c'est une succession voilà d'étages comme ça. Et ensuite, le tout doit être recouvert d'une crème, qui est une crème au beurre, pour pouvoir justement faire tenir la structure. Et ensuite, on met oui ou non de la pâte à sucre, c'est pas une obligation. D'accord. Mais sachant que j'essaye quand même de faire quelque chose de très fin pour pas rapporter du sucre au tout. Donc ma couverture en pâte à sucre dépasse pas les 3 mm.
Par-dessus tout ça, vous avez un décor. Et c'est là que vous donnez soit libre cours à votre imagination, soit que vous vous efforcez de donner libre cours à l'imagination de vos clients qui vont vous demander certainement des choses bizarres.
Complètement, c'est pas toujours facile justement de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Donc le but, c'est moi de prendre vraiment un premier rendez-vous où j'essaye de faire parler le plus possible mon client, de savoir ce qu'il aime, les coloris, les thématiques, et essayer de représenter après quelque chose qui sera à son image. Voilà.
Et qui sera un gâteau qui portera forcément des éléments se rapportant à l'événement qui est célébré.
Complètement, donc anniversaire, ça peut être mariage, baptême, tout plein d'événements en fait à célébrer. Hein.
Alors, pour ça, vous avez des documents, puisque dans votre magasin, par définition, vous n'allez pas exposer des théories de gâteaux de gâteaux importants comme on expose des armées de gâteaux individuels. Comment faites-vous choisir les décorations à vos clients? Alors, en dehors de leur rapport personnel.
Alors, j'essaye justement, parce que c'est pas évident. C'est vrai que quand on va aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a même des boutiques, en fait, des vitrines avec des gâteaux déjà composés de ce principe-là. En France, c'est pas encore d'actualité, parce que ça s'est pas développé de la même manière. Moi, je fais vraiment du sur-mesure. Donc, j'essaye d'apporter des visuels avec des gâteaux factices que je mets en vitrine. Pour avoir déjà apporté des exemples en fait de ce qui peut se faire, parce qu'il y a énormément de choses à réaliser. Hein. Après, sinon c'est sur internet avec d'autres exemples, mais venus d'outre-mer aussi justement. Et le but c'est que les gens trouvent quelque chose qui s'apparente à ce qu'ils eux aimeraient en fait retrouver dans leur gâteau.
Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser, de dire non, ça vraiment je peux pas le faire, ou bien vous me demandez quelque chose là qui sera de mauvais goût, ou bien qui est tellement difficile que je renonce?
J'ai jamais refusé un gâteau. Toutes les thématiques sont acceptées. Après, des fois, voilà, les gens voient des choses sur Internet et ils sont pas forcément réalisables non plus en France parce qu'on n'a pas les mêmes normes, rien qu'au niveau de l'ajout de colorants. Donc on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut malheureusement en France, mais non, j'essaye de trouver une adaptation à chaque thématique. Après voilà, j'essaye aussi de montrer aux gens qu'il y a des choses qui sont réalisables, il ne faut pas trop en mettre sur les gâteaux, certaines personnes voudraient en mettre de trop, et je les freine en leur disant attention, ça peut être surchargé, pas très harmonieux, et
tout va se démolir au moment où vous allez partager ce gâteau.
Ouais, exactement, j'essaye quand même de donner des indicatifs, hein.
Alors on va revenir un petit peu en arrière. Votre formation artistique, elle vous destinait à quoi?
Moi, c'était personnel. Je n'avais pas envie d'en faire mon métier. J'aurais bien aimé. À l'époque, je voulais faire une formation de création design pour être architecte d'intérieur. Mais au final, la gastronomie l'a emporté et j'ai préféré faire de mon métier l'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans en hôtellerie-restauration. Et c'est ensuite que je me suis vraiment formée en pâtisserie où c'était le domaine de prédilection finalement.
Alors vous avez parlé à plusieurs reprises des créations étrangères. Vous avez travaillé à l'étranger ?
Non. Étonnamment, non. J'ai eu un formateur qui, lui, s'est formé en Grande-Bretagne. Mais non, j'ai jamais fait de formation à l'étranger. Et c'est vrai que ce serait avec grand plaisir d'en faire une aujourd'hui avec déjà l'expérience que je me suis faite en France dans ce domaine-là.
Il faut partir en Australie et puis renouveler l'art du Pavlova là-bas. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans l'orientation que vous avez donnée à votre travail après votre passage quand même prolongé dans l'hôtellerie-restauration ? C'est-à-dire que est-ce que votre métier, la manière dont vous l'exercez maintenant, est-ce que ça satisfait à la fois votre désir de création et puis le goût et la pratique que vous avez de la pâtisserie ?
Ah oui, complètement, parce que ça évolue continuellement. C'est-à-dire qu'on peut créer à l'infini et puis il faut suivre l'air du temps au final. Donc en termes de goût, j'essaye déjà au bout de 2 ans, j'ai fait évoluer ma carte. Toujours essayer de l'améliorer. Et puis en termes aussi de création, le côté artistique, c'est pareil, ça ne cesse d'évoluer. Donc je cherche toujours à trouver des nouvelles techniques. Pour faire de choses encore plus belles et plus réalistes. Rien qu'au niveau du modelage de fleurs en pâte à sucre, j'essaye vraiment de trouver des petites astuces pour arriver à faire une fleur qui ressemble à une vraie, quoi.
Donc, c'est quelque chose qui est apprécié par vos clients.
Oui.
Le fait d'avoir une création véritablement artistique avec des décors qui sont beaux avant d'être bons.
Oui, complètement. Mais j'essaie d'avoir ce côté gâteau 100% comestible. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de rajouter des fleurs de chez le fleuriste à mettre sur mon gâteau. J'ai envie que les gens se disent on peut intégralement le manger.
Oui, en même temps, on a peur d'y toucher parce qu'on a conscience qu'on va démolir quand même une œuvre d'art et qui sera unique.
Je pense que c'est dur. C'est dur. Moi, j'ai rarement l'occasion de le faire. Je laisse ça à mes clients. Mais beaucoup me disent on l'a regardé un bon moment avant de le découper. Ça m'a fait mal au cœur de le découper, oui.
Alors, je voudrais vous poser une autre question aussi au sujet des... vous l'avez un petit peu abordé en parlant du goût et de ce que vous recherchiez. Est-ce qu'il y a une nouvelle pâtisserie comme il y a une nouvelle cuisine ? C'est-à-dire en essayant de mélanger des goûts qui n'étaient jamais mis en contact auparavant, en donnant une apparence particulière aux créations.
Ah oui, ça ne cesse d'évoluer au final. Hein. On s'adapte. J'ai de plus en plus de clients qui me demandent des recettes sans lactose, sans gluten, même sans œufs. Et aujourd'hui, on arrive au fur et à mesure à trouver justement des solutions pour faire des gâteaux qui sont aux attentes de ce type de client. Et je pense que même au niveau des saveurs, on arrive encore à trouver des nouveaux accords, des nouveaux mariages de saveurs. Donc ça s'arrête jamais.
Est-ce qu'il y a vous avez un recul suffisant pour voir des modes apparaître, dans l'expérience que vous aviez déjà dans l'hôtellerie-restauration, est-ce qu'il y a des goûts qui n'étaient pas auparavant, qui ne faisaient pas partie de la culture culinaire et pâtissière française, et puis qui ont été intégrés ? Alors, vous avez parlé de pays étrangers à plusieurs reprises. Petit à petit, on a intégré beaucoup de choses exotiques qu'on n'utilisait pas auparavant. Est-ce que c'est le cas en pâtisserie ?
Ah oui, c'est sûr. Bien sûr. On remonte des années en avant, les gens voulaient des choses On aimait le sucre, en fait, le gourmand, la gourmandise vraiment pure et dure. Aujourd'hui, on recherche beaucoup plus la légèreté, c'est-à-dire se faire plaisir, mais sans justement grossir, sans que ça soit trop bourratif, ce genre de choses. Mmh. Et
fruits, des choses
voilà, le côté fruité, le côté légèreté, les entremets et ce genre de choses, oui. Donc il y a des saveurs qui arrivent. Le yuzu, je pense, je travaille beaucoup avec la rose aussi. Ce côté floral, la rose, la violette.
Alors ça, c'est là vous utilisez des produits qui sont déjà élaborés, des sirops, des choses comme ça.
C'est des sirops. La rose, en fait, ça va être si vous voulez, c'est un peu comme le côté huile essentielle. C'est des arômes qui sont vraiment travaillés avec le produit pur. Moi, j'utilise que des arômes naturels. Et oui, la rose, ça va être un arôme naturel de rose. La violette aussi. Et après, tout ce qui est yuzu, ce sont des fruits quand même, donc on peut les utiliser purs.
Qu'est-ce que c'est, vous pouvez...
Alors, le yuzu, c'est un petit agrume. On va se rapprocher quand même du citron vert, mais avec un arôme quand même tout particulier, beaucoup moins acidulé, mais beaucoup plus aromatique encore que le citron vert. Et ça donne des parfums incroyables. Des mariages de saveurs avec la framboise, le yuzu, le fruit de la passion. J'adore utiliser le fruit de la passion parce que ce côté acidulé, mais tellement aromatique derrière. La dernière fois, on m'a demandé un gâteau de mariage. Il voulait de la fraise avec du basilic. Mais c'est un mariage merveilleux. Fraise-basilic, c'est merveilleux.
Et ça, ce sont des clients qui vous l'ont demandé.
Et oui, parce que si vous voulez, à Paris, il y a énormément de grands pâtissiers qui tentent des choses. Je me rappelle du macaron de Pierre Hermé, rose, framboise, litchi. C'est merveilleux, ces mélanges. Et cette dame avait vu justement, je pense que c'était chez Pierre Hermé aussi, un macaron fraise basilic. Et moi, j'ai fait le test personnellement, juste en mangeant des fraises de chez nous et en rajoutant un petit peu de basilic ciselé. Merveilleux. J'ai essayé de l'intégrer dans mes crèmes. Ça marchait du tonnerre. Et c'est comme ça qu'il faut essayer.
Le chocolat, vous le travaillez aussi ?
Le chocolat, je le travaille aussi. L'accord avec la fève tonka est génial. Et le chocolat au lait et le fruit de la passion, pareil. Moi, c'est pas au goût de tout le monde, mais moi, j'adore personnellement.
Est-ce que vous avez des relations avec des créateurs de pâtisserie comme vous, soit localement, soit en France, soit à l'étranger ?
Alors non, à part mon formateur justement sur Angers, mais moi il s'avère que quand j'ai passé cette formation de cake design, j'étais toute seule à être formée. C'est-à-dire que c'était sur une période un petit peu au moment du Covid. Et du coup, il a fait une formation exceptionnelle sur cette période-là. Et au final, il n'a eu que moi. Donc, j'ai eu le privilège d'avoir ce formateur pour moi toute seule. Mais je n'ai pas rencontré au final de personnes qui réalisaient ce même métier.
Mais à votre connaissance, il y a des gens quand même, des créateurs
dans
France qui se sont installés.
De plus en plus. Oui. De plus en plus. Il y en a eu une que j'ai rencontrée quand même, alors que je connais pas forcément personnellement très bien, mais qui était sur Cube Jack, qui s'appelait Sweetie, qui s'est arrêtée pour des raisons médicales. Mais je l'ai rencontrée et elle faisait des choses extraordinaires. Donc j'ai pris un petit peu son relais. Après, je sais qu'il y en a aussi pas mal sur Paris. Beaucoup se forment sur Paris, c'est en plein développement. Et on en voit vraiment de plus en plus sur Bordeaux, Lyon, Angers, les grandes villes. Et un petit peu dans la zone, je sais qu'en Dordogne, on est officiellement 3-4 à faire ce métier-là. Ah oui. On n'est pas encore très nombreux, mais ça se développe. Ça se développe.
Est-ce que le travail que vous faites se ressent des préoccupations de l'époque ? C'est-à-dire que est-ce que vous allez viser le zéro déchet, viser des choses qui sont plutôt économes, adaptées aux saisons, utilisation de produits adaptés aux saisons, tout ce qui est autour de cette notion de sobriété à laquelle on est conduit par l'évolution actuelle peut-être du climat.
Alors forcément oui, parce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps de toute façon. Donc moi déjà de mon côté quand je pâtisse, je trie mes déchets, j'ai un composteur, j'essaye au maximum de trier tous mes déchets, j'essaye d'en faire le moins possible. La chance que j'ai, c'est que je n'ai pas réellement de perte étant donné que je fais du sur-mesure uniquement à la commande. Oui. Donc un gâteau, en général, c'est vraiment calculé à la part. Et moi, de mon côté, je crée pour cette occasion. Donc j'ai très très peu de pertes et j'en suis très contente. Donc déjà, voilà. Après, l'emballage, malheureusement, c'est toujours compliqué parce qu'en pâtisserie, transporter un gâteau, il faut que quand moi, je le sors de ma boutique, le client le retrouve de la même manière chez lui. Ouais. Donc, le transport est compliqué. Donc, je suis malheureusement obligée d'utiliser pas mal de carton. Mais bon, je pense que c'est un petit peu l'obligation de tout pâtissier. Ah oui, vous m'avez posé la question aussi pour les fruits. Alors, les clients ne sont pas toujours faciles à convaincre, mais j'essaye quand même de leur inculquer ce produit de saison. Oui. La fraise, on me la demande quasiment toute l'année. Alors, ce n'est pas parce qu'on est en Dordogne qu'on produit de la fraise toute l'année. Donc, j'essaie de proposer des produits au plus possible proches de la saison. Hein. Maintenant, ce n'est pas toujours évident. J'ai des clients qui souhaitent absolument de la fraise en plein mois de décembre. Je vais leur faire parce que je suis à l'écoute quand même de mes clients, même si je vais leur dire, attention, c'est quand même pas de saison. On m'a conseillé de faire payer plus cher si les gens voulaient des produits hors saison. Le but, c'est qu'ils soient conscients, justement, de cet impact, en fait, hein, environnemental aussi. Hein.
Ça doit être très compliqué, parce qu'il y a des parfums que vous intégrez régulièrement, comme le fruit de la passion. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, forcément, vient de loin.
Oui. Alors, après, de mon côté, j'ai la chance d'avoir un producteur qui n'est pas très, très loin, qui s'appelle Pontier, qui fait des coulis. Et donc, du coup, eux travaillent forcément sur l'année. Et ils font des purées de fruits divines. Donc, hors saison, j'essaye de travailler au maximum avec ces produits-là, finalement. Et qui sont de très très bonne qualité aussi. Donc plutôt que de mettre de la fraise fraîche, je vais essayer de travailler avec une purée de fraises.
Ça veut dire que vous travaillez, vous essayez aussi, ouais, ça fait aussi partie des notions qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer d'être le plus économe possible de la nature, de sa consommation. Ça veut dire que vous travaillez essentiellement avec des producteurs ou des fournisseurs locaux.
Alors pas essentiellement, parce que c'est toujours compliqué. Surtout à mon échelle, je ne suis pas une grosse pâtisserie, donc c'est très compliqué pour moi d'aller chercher, mettons, ma farine chez le minotier à côté ou d'aller chercher mes œufs chez le produit. On est obligé malheureusement de travailler quand même avec des centrales d'achat. Mais dès que je peux, mes confitures, j'utilise pas mal de confitures sur certaines recettes. Je vais les chercher à Coulounier-Chamy au temps de génie, hein, qui elles sont excellentes. Ensuite, après, pour tout ce qui est coulis, je vous dis que je me fournis justement avec Monsieur Pontier, qui est vraiment... parce que les produits c'est des produits pour moi considérés importants. Tout ce qui est fraises, framboises, c'est un producteur local. Bon, là, c'est sûr que j'ai la facilité parce qu'on est vraiment à côté. Après, pour le reste, malheureusement, c'est pas toujours évident de trouver le local et la facilité aussi d'utilisation des produits.
Vous intégrez un produit typiquement périgourdin qui s'appelle la noix.
Alors la noix, j'ai très peu de demandes sur des... C'est-à-dire que j'arrive pas forcément toujours à l'intégrer dans ce type de gâteau. C'est pas évident. C'est pas évident, mais je vous avoue que j'aimerais bien. J'aimerais bien essayer de vendre le produit, mais ça plaît pas forcément à tout le monde, malheureusement.
La noix, la châtaigne aussi, qui est un petit peu dédaignée, qui est pourtant tellement bonne dans les pâtisseries.
Ah, mais surtout des petits moelleux, mais que ça soit moelleux à la noix ou petit moelleux à la châtaigne, en utilisant la farine de châtaigne, c'est merveilleux, on peut faire des très très belles choses. Mais la demande est malheureusement pas là, quoi.
Il vous arrive quelquefois de vous dire, finalement, si j'avais fait... une douzaine de gâteaux individuels, comme ça, je les aurais vendus parce qu'il y aurait une demande.
Mais après, moi, je propose pas de vente en boutique et mes clients le savent. Alors derrière, c'est pas évident de d'un coup proposer de la vente en direct parce que les gens ne sont pas habitués. Et là, je pense que je ferais de la perte, malheureusement.
Mais
Oui, exactement. Mais c'est sûr que ça serait... Après, toute recette est possible. C'est-à-dire que vous me donnez vos envies. Moi, j'aime la noix. Avec quoi je peux la marier? Moi, j'aime la châtaigne. Qu'est-ce que vous me proposez? On peut faire des recettes sur mesure. Je n'ai pas de limite là-dessus.
Je pense que vous avez des grands classiques, mais vous prenez des libertés avec les recettes.
Oui.
Classique, c'est-à-dire que vous créez non seulement la forme, mais le fond aussi.
Complètement. C'est vraiment à la demande. J'ai une carte de base pour donner les idées aux clients, mais si la personne... Moi, je préfère faire parler le client, c'est-à-dire quels sont vos parfums préférés. Et après, j'essaye de leur apporter une recette qui soit en fonction de ses envies. Oui. J'aime le chocolat, j'aime le praliné. Voilà, exactement. Alors, soit je vous propose ça, soit je vous propose ça. J'essaye vraiment de concevoir du sur-mesure pour les épater et que ça soit à leur goût, en fait. C'est vraiment le sur-mesure.
Vous avez des retours ?
Oui, j'ai beaucoup de retours, de très bons retours. Les clients sont très contents et du goût et du visuel. Donc ça, j'en suis ravie et j'essaye vraiment de travailler, de continuer justement pour arriver à faire de mieux en mieux et encore trouver de très bonnes recettes.
Donc vous restez passionné, alors c'est bien. Mais alors, toutes les fois que vous voyez partir une de vos créations, qui par définition, comme on l'a dit, est unique, ça doit vous faire un petit pincement au cœur en vous disant, ben voilà, ça va être détruit dans quelques heures et puis il n'en restera rien, sinon des photos que j'ai pu prendre.
Mais je ne me dis pas ça, moi. Je me dis plutôt que, alors ça me tient très à cœur à chaque pièce, je passe beaucoup de temps sur chaque pièce, je ne peux pas laisser partir une œuvre non aboutie. Je suis très perfectionniste là-dessus. Donc chaque pièce que je remets, ça me tient à cœur et j'attends vraiment le côté émerveillement des personnes qui l'ont commandé, notamment les enfants. Moi, c'est toujours un émerveillement de voir les enfants avec leur gâteau d'anniversaire. Et donc je me dis au moins ça va faire plaisir à quelqu'un. C'est un gâteau événementiel comme un gâteau de mariage, c'est le gâteau d'une vie. Voilà, j'essaye vraiment toujours de considérer que c'est une pièce unique, une pièce sur mesure qui part pour le bonheur de mes clients. Et je pense pas au côté des couples.
Alors, vous avez fait des gâteaux. Tout à l'heure, je vous demandais si vous avez... Il y avait des challenges que vous n'aviez pas acceptés parce que vous ne sentiez pas de taille à les relever. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des gâteaux vraiment exceptionnels, par exemple des gâteaux de centenaire ou bien des gâteaux de gens qui étaient mariés depuis 80 ans ?
J'ai pas eu encore la demande. Ça, j'aimerais beaucoup. J'ai eu, je pense que la plus âgée des personnes, c'était un 90 ans, qui est déjà une belle année. Après, des gâteaux de mariage, des beaux gâteaux de mariage, j'ai eu des très très belles commandes. Le maximum que j'ai fait, de toute façon, ça devait être 6 étages de gâteaux. Et c'est très lourd.
Et votre minimum, alors rappelez-nous votre minimum.
Alors, mon minimum, c'est 14 parts. 14. Voilà, pour que ça soit joli.
Pourquoi 14 ? Alors, 14,
c'est... 14, en fait, c'est le format, parce que je suis vraiment sur format, donc c'est mon format de 15 cm de diamètre. Ça, c'est assez haut, c'est entre 10 et 12 cm de haut. Et on va dire que c'est le format minimum pour avoir quelque chose de joli.
D'accord.
Voilà.
Au-dessous de cette dimension, on peut pas démolir, on ne peut pas couper le gâteau sans le démolir.
Mais c'est un peu plus compliqué et c'est très petit, donc visuellement, vous allez être déçu par la taille, en fait.
Julie Brunel, malheureusement, le temps passe trop vite. Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez appris. Il nous reste à vous souhaiter bonne chance dans votre création. Et puis essayez de venez parler de votre art, puisqu'il s'agit vraiment d'un art, à notre radio, à Radio Libre en Périgord. Pourquoi ne pas proposer comme ça, périodiquement, une recette simple à nos auditeurs?
Ben, ce sera avec plaisir, vraiment avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté, en tout cas.
Vous avez entendu La Passion. Avec Julie Brunel, on s'est tellement attardé sur les gâteaux qu'elle crée et sur la dimension artistique de son travail que nous n'avons même pas parlé de ses autres passions. Or, sachez qu'elle en a. Celle de la musique rock, par exemple, que lui a communiqué son papa, et aussi celle du sport qu'elle pratique assidûment. Peut-être l'écouterons-nous à nouveau sur ces sujets, sur RLP bien sûr. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.